Bonsoir. Ici le groupe d'Amnesty d'Evreux. Alors nous avons Ronan, Didier, Edith et Françoise qui vont vous présenter notre actualité.
Bonsoir.
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 Bien, et bien pour nous, cette année, ça sera le 50e anniversaire d'Amnesty. Donc, nous vous invitons déjà à retenir la date du 28 mai 2011. Là, nous fêterons les 50 ans de notre organisation. Bien sûr, nous préférions ne pas avoir à vous dire ça, puisque nous luttons toujours pour la libération des prisonniers concernant leur opinion politique. Mais cependant, notre mouvement agit et Didier va vous donner des informations sur ce qui s'est passé en Tunisie.
Oui, donc le premier sujet qu'on va aborder ce soir, c'est l'actualité tunisienne. J'en profite pour compléter ce que vient de dire Françoise en souhaitant à tous les auditeurs une bonne et heureuse année 2011, puisque c'est notre première émission de l'année. C'est aussi notre anniversaire, puisque ça fait un an. Au mois de janvier 2010, on a commencé l'aventure avec Principe Actif. Donc, deuxième année d'aventure avec Principe Actif en 2011. Et donc on va parler ce soir bien sûr de ce qui fait la une de l'actualité depuis la mi-décembre à peu près, c'est-à-dire l'actualité en Tunisie. Alors j'ai préparé un petit topo. J'ai préparé un petit topo sur la Tunisie. Et
tu vas nous le lire.
Je vous livre.
Et tu vas nous en parler.
Je vais vous en parler, je vais pas vous le lire, mais je vais comment.
Généralement Didier il lit jamais.
Hein. Non, Didier il commence à parler et après il ne s'arrête plus.
Alors, quelques considérations générales. Les droits humains sont liés à une culture spécifique. Leur universalité est une notion occidentale. L'unité d'un pays récemment indépendant passe avant le respect des droits fondamentaux. La lutte contre le terrorisme l'emporte sur les droits humains.
Ah.
Bien, Edith, j'espère une réaction effectivement de l'auditoire qui se dise ça y est, il est tombé sur la tête.
Excuse-moi, je suis en train de me réguler, moi.
Donc, c'est un petit résumé que j'ai fait de tout ce qu'on entend, effectivement, et tout ce qui vient d'être démenti en Tunisie. Ça, c'est les arguments officiels en disant les droits de l'homme, c'est bien pour les pays qui peuvent les avoir, et c'est pas bien pour ceux qui sont pas encore aptes à les avoir. Les Tunisiens sont en train de nous faire une démonstration magistrale de l'aspect totalement faux de ce genre de déclaration. Bon, alors, l'histoire récente de la Tunisie, je vais faire un très très bref résumé. La Tunisie est une colonie française, on va passer sur tous les siècles précédents, mais est une colonie française depuis la fin du 19e siècle. Et après avoir été largement, son économie et ses droits ont été largement abusés par la puissance occupatrice, c'est-à-dire la France, comme dans toutes les colonies pendant une bonne partie du 20e siècle. Les mouvements indépendantistes se sont manifestés au début du XXe siècle et plus précisément après la fin de la Deuxième Guerre mondiale sous l'inspiration de Habib Bourguiba qui devait devenir leur premier président. Pour la petite histoire, il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance coloniale, donc la France et le régime de Vichy, a livré Bourguiba, donc le principal leader indépendantiste à venir, a livré Bourguiba aux autorités italiennes et à Mussolini, ce qui est quand même une notion très relative de la moralité du régime.
Oui, mais à cette époque-là, c'était quand même l'occupation. Oui, c'était l'occupation. Pas forcément...
Bon, après la guerre, assez rapidement, des pourparlers pour l'autonomie et l'indépendance de l'Algérie ont commencé à l'instigation de Robert Schuman, qui était aussi fondateur de l'Union européenne par la suite, dès 1950. Bon, ça s'est pas fait tout de suite. Ça s'est pas fait tout de suite, mais il y a eu plusieurs luttes, y compris des luttes armées. À l'instigation des mouvements indépendantistes et donc entre autres d'un parti qui allait devenir le parti leader par la suite qui est le Destour et le Néo-Destour. Bon, je ne vous expliquerai pas la nuance entre les deux. Il y en avait un, le Destour, qui était plus religieux et l'autre plus laïque, c'était le Néo-Destour. Et c'est le Néo-Destour de Bourguiba qui va finir par prendre le pouvoir après les luttes d'indépendance. L'indépendance est reconnue en 1956 par la France, après pas mal, encore une fois, de négociations. Et au début, le régime est relativement, entre guillemets, libéral et laïque, ce qui était relativement neuf dans une région qui était quand même d'obédience assez facilement, disons, sous l'emprise des mouvements religieux islamiques. Donc la République est relativement laïque. Au début, c'est un régime relativement libéral qui va assez rapidement se durcir dès les premières années. En 1963, donc 5 ou 6 ans après la déclaration d'indépendance, le Parti communiste est interdit par le régime. Et très rapidement, ça va devenir en fait un parti d'un régime du moins de monoparti avec le parti que l'on connaît, dont je recherche le nom, le
RD,
le parti de rassemblement RD, de la
RDG.
République, RDG, enfin le parti, oui, RDG, le parti actuel. Ouais, je vais vous le retrouver tout à l'heure, peu importe. Et donc le régime se durcit au fil du temps. Il est marqué aussi dans les années 60 par Bourguiba étant quelqu'un de d'opinion relativement socialiste au niveau économique. Il est marqué par une nationalisation d'à peu près toute l'industrie tunisienne. Il est marqué aussi par une appropriation par l'État de l'ensemble des terres cultivées, ce qui se passera pas sans révolte, sans heurts et sans répression sanglante aussi. Et donc le régime continue comme ça. Habib Bourguiba se représente à des élections à plusieurs reprises et il finit par se faire reconnaître président à vie.
C'est
plus facile effectivement pour rester au pouvoir, c'est tout à fait d'accord. Bon, dans les années 80, on va rapidement arriver aux années 80 où on voit apparaître le président qui vient d'être chassé, c'est-à-dire Ben Ali, qui est dans un premier temps ministre de l'Intérieur de Habib Bourguiba et qui en 1987 prend le pouvoir à la suite d'une action qu'on peut un peu qualifier de coup d'État, enfin c'est pas très clair, et qui destitue Habib Bourguiba pour raison de sénilité. Habib Bourguiba étant assez âgé et devenant effectivement ayant des problèmes de santé importants, Ben Ali le destitue pour sénilité. Les premiers temps de Ben Ali s'est accueilli par les Tunisiens là aussi comme un soulagement, puisque Ben Ali semble ouvrir le régime là aussi à des composantes plus démocratiques, à un meilleur respect des droits fondamentaux, à une plus grande liberté de la presse et des opposants. Il autorise par exemple la création de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui est une des premières à se créer dans les pays du Maghreb, mais ça va pas durer longtemps. Et donc, dès le début des années 90, 3 ou 4 ans après son entrée en pouvoir, le régime se redurcit à nouveau et devient effectivement extrêmement répressif par rapport à tous les mouvements d'opposition. Et le monopartisme réapparaît très vite. Et Ben Ali se fait réélire avec des scores de République bananière, dirons-nous, qui oscille entre 80 et 90% à plusieurs reprises, 3 fois de suite. Et la troisième fois, il fait une modification de la Constitution qui lui permet de se représenter là aussi
à vie. Président à vie.
Enfin non, il n'était pas président à vie, mais en fait, ça lui permettait de se représenter indéfiniment.
Ouais, c'est tout comme.
Voilà,
c'est tout comme. Et les partis d'opposition.
Et les partis d'opposition, toujours lettre morte, puisqu'ils étaient effectivement de toute façon interdits. C'était le régime du monopartisme qui était réapparu donc après une toute petite pause, un tout petit peu libérale, fin années 80, début années 90. Bien. Donc on en arrive aux événements actuels où là la population effectivement s'est révoltée, comme on l'a vu au mois de décembre, et donc aux manifestations. Il faut bien voir que c'est une convergence d'opposition à la fois politique, les Tunisiens effectivement manifestant leur volonté de retour à un régime démocratique, à un régime respectueux de la liberté, etc. Et aussi une révolte économique. Puisque pendant toute son occupation du pouvoir, M. Ben Ali a fait une politique extrêmement, tout à fait à l'opposé de M. Bourguiba, une politique très ouverte au niveau privatisation, rapprochement de l'Occident, etc. C'est pour ça qu'il était très bien vu aussi par les autorités européennes, par exemple, les différents gouvernements européens, dont la France, parce qu'en fait, il avait accepté effectivement une emprise de son économie par des sociétés étrangères de façon très importante. Donc, s'en est suivi un grand appauvrissement de la population, en général, et un taux de chômage important. Bon, on l'a dit, on arrive à 30% au moins 30% de chômage chez les jeunes, voire plus. Donc c'est la convergence de ces différents phénomènes qui a amené à un ras-le-bol général de la population et tous les événements qu'on connaît à l'heure actuelle.
Et Didier, on peut peut-être aussi parler quand même par rapport au régime Ben Ali, c'est aussi l'importance de la police. Comment ça pouvait tenir un régime comme ça? C'est qu'il y avait la peur partout et qu'il y avait la surveillance de tout le monde et la délation de tout le monde. C'est-à-dire que les Tunisiens en ont vraiment supporté beaucoup, beaucoup. Tous les défenseurs des droits de l'homme ont été vraiment complètement... on va dire surveiller les familles ennuyées dans les lieux de LDH ou même Amnesty, parce qu'il y a même eu quand même, il y avait aussi une section Amnesty
je vais en parler après.
Voilà, bon, bah, écoute, c'était ça, c'était juste pour remettre la vie des Tunisiens un peu plus...
Tout à fait, effectivement les forces de police c'était le principal outil par M. Ben Ali pour pratiquer la répression. C'est pour ça que la police effectivement tunisienne a une si mauvaise presse auprès de la population, et donc effectivement c'est ce que disait disait Edith, le régime a continué de cette façon-là. Bon, Amnesty, depuis, bien sûr, des années, a multiplié les actions envers le gouvernement de Ben Ali, a multiplié les actions envers les prisonniers politiques en Tunisie. Je me suis amusé à remonter dans les archives du site amnesty.org, les archives à Londres, et il y a un petit communiqué que je vous lirai pas, mais un petit communiqué qu'on peut trouver, qui date, je vais rechercher la date précise, qui date de 1991, quelque chose comme ça, où déjà, effectivement, il y avait des communiqués de presse d'Amnesty, il y avait des demandes d'action envers les prisonniers d'opinion, et il y avait ce genre de choses. Donc ça, c'est... Et il y a, pour vous citer l'action d'Amnesty par rapport à la Tunisie, il y a archivé actuellement sur le site d'amnesty.org 56 pages concernant la Tunisie, donc les actions, effectivement, ont été multiples.
Parce qu'Amnesty avait dit depuis longtemps que la Tunisie était un état policier. Moi, j'ai, là, actuellement, avec ce qui s'est passé en Tunisie, j'ai la réaction d'amis qui me disent « Ah, ben on ne savait pas que c'était comme ça. » Ben si, Amnesty l'avait dit. Donc, bien sûr, il faut aller lire.
Bien sûr. Et là, tu fais c'est très bien parce que tu fais le lien sur ce que je voulais dire. C'est effectivement la remarque suite à ce qu'on vient de dire et à tout ce qui a été dit par Amnesty et d'autres. On n'était pas les seuls, mais particulièrement par Amnesty vis-à-vis des atteintes aux droits de l'homme. Devant l'assourdissant silence de toutes les autorités occidentales et autres vis-à-vis du gouvernement Ben Ali. Effectivement, allant jusqu'à Monsieur Jacques Chirac déclarant il y a quelques années que les droits de l'homme étaient respectés en Tunisie puisque le premier droit, c'est-à-dire manger et avoir le droit de manger correctement, était reconnu en Tunisie. Bon, ce qui était une façon de voir les choses tout à fait particulière. Et donc, effectivement, bon, les autorités françaises et autres ont été particulièrement conciliantes vis-à-vis du régime de M. Ben Ali, pour ne pas dire autre chose. Donc, le silence vis-à-vis des exactions a été absolument assourdissant. Et ce qu'il faut voir, c'est que la révolution actuelle en Tunisie, puisqu'il faut l'appeler une révolution, d'ailleurs, ils l'ont appelée la révolution de Jasmin, ce qui est un très joli terme, la révolution actuelle, effectivement, est aussi une convergence de phénomènes très, très contemporains. C'est-à-dire que au-delà de l'aspect politique, révolte économique qui sont liées, il y a aussi un rôle important d'Internet dont on s'est rendu compte ces derniers temps. Des téléphones portables, des réseaux sociaux, même si tout ça a été censuré en Tunisie, ça n'a pas empêché l'information de passer, et aux gens de communiquer, des manifestations de s'organiser, et on connaît la suite. C'est ce qu'avait dit Françoise, était là avec moi au dernier congrès d'Amnesty à Nantes au mois de mars dernier. C'est ce qu'avait dit le représentant, d'ailleurs le directeur de l'Amnesty Tunisie, en disant continuez à nous défendre, etc., oui, etc., continuez à agir, Internet c'est fondamental, nous on l'utilise, c'est censuré mais on y arrive, la preuve qu'ils y arrivent puisque ça a été fondamental dans leur révolte. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à la Tunisie. Allez sur le site, je l'ai ici mais je vous le dirai pas, allez sur le site amnesty.fr, vous avez plein de communiqués dont le dernier qui date d'hier, qui reprend tout ce que je viens de dire mais en appelant effectivement les autorités tunisiennes à continuer leur révolution en respectant les droits humains. Amnesty, bien évidemment, est tout à fait favorable à l'évolution actuelle et considère que c'est une avancée fondamentale pour l'évolution des droits humains, aussi bien en Tunisie que dans les pays du Maghreb qui les environnent, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quelques échos aussi en Algérie, quelques échos en Égypte, j'attendais tout à l'heure aux informations, etc. Il y a des gens qui commencent à réclamer la démocratie. Tiens donc, la démocratie, pas les islamistes, mais la démocratie dans ces pays-là aussi. Là aussi, ça contredit toute l'information dont on nous rabat les oreilles depuis pas mal d'années.
Voilà, et on va leur souhaiter bon courage et on va être auprès d'eux.
Voilà, alors pour être auprès d'eux, je vais quand même vous lire l'adresse. Alors excusez-moi parce que je ne parle pas l'arabe. je vais vous lire l'adresse d'Amnesty Tunisie.
On vous la retrouverez sur le site.
Dès que je l'ai retrouvée, non, je l'ai là. Voilà.
Bon. Tu vas pouvoir.
Bon, alors, oui. Tunisie. Amnesty Tunisie, c'est 67 rue Oum Kaltoum, 3e étage, escalier B, Tunis, code postal 1000.
Oh, c'est pas trop compliqué.
Courriel admin-tn@amnesty.org. Téléphone 216 71 35 voilà. 34 17. Donc n'hésitez pas, surtout si vous êtes vous-même si vous nous écoutez vous-même d'origine tunisienne, n'hésitez pas à aller sur le site d'Amnesty, de reprendre leurs coordonnées, de les contacter. Ces gens-là, effectivement, se battent aux côtés des gens qui font la révolution là-bas.
Merci Didier.
Eh bien,
on va peut-être faire une petite pause.
La première pause musicale.
Thank you.
un morceau de Santana. On vient d'écouter donc un morceau de Santana, Samba de Patti.
Alors maintenant, Edith va vous parler du dérapage de la lutte contre le terrorisme.
Alors, on va dire qu'on continue un peu par rapport à la Tunisie. La Tunisie, le régime de Ben Ali, que l'Europe a soutenu en nous disant « Mais attendez, si c'est pas Ben Ali, ça sera les islamismes. » C'est toujours le système de la peur. Pour éviter quelque chose, on préfère garder un système qui n'est pas du tout démocratique. Et c'est comme ça que la Tunisie a perduré. Alors là aussi, c'est vous parler des dérapages de la lutte contre le terrorisme. Alors, on va vous parler de qui ? Notre ami George Bush, des États-Unis, des attentats. Et après les attentats, le programme a été lancé, donc après les attentats du 11 septembre. Et il consistait à transférer des prisonniers suspectés d'activités. Ils me font du bruit devant, c'est compliqué. D'activités terroristes dans des pays pratiquant la torture. Je pense que vous avez dû en entendre un petit peu parler. C'est-à-dire que, à ce moment-là, on a mis en silence une série de droits fondamentaux. Et ce sont les Américains qui ont, avec la CIA, mis en place ce système. Alors, les programmes. On sait maintenant qu'en plus de la CIA, il y a eu une complicité de certains gouvernements européens. Et ce qu'Amnesty voudrait maintenant, puisque les choses arrivent un peu à la connaissance du public, c'est qu'il y ait aussi une reconnaissance des préjudices des gens qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés, et que la justice passe pour les victimes de ces disparitions forcées, pour qui ont subi des actes de torture, de mauvais traitements, et qui ont accompagné cette drôle de guerre. Alors, je vais vous donner un peu la position de Nicolas Berger, qui est directeur du Bureau européen d'Amnesty International. Pour lui, l'Union européenne s'est montrée incapable d'amener ses États membres à rendre des comptes s'agissant des atteintes des droits humains dont ils se sont rendus responsables. Les violations des droits humains ont été perpétrées sur le sol européen. La CIA enlève des personnes, les États européens sont complices, on les amène dans d'autres pays où la torture a lieu et on essaye de les faire avouer. Tout ça parce que le terrorisme fait tellement peur. Alors Nicolas Berger continue, nous ne pouvons tout simplement pas laisser l'Europe devenir dans le sillage des États-Unis une zone exempte de toute obligation de rendre des comptes, oui. L'Europe, hein, quand on dénonce très souvent les tortures, quand on dénonce tout ça, là aussi, on est quand même, pour certains pays, avec avoir quand même mis les mains un peu dans le cambouis, pas terrible. Donc le Conseil de l'Europe et les Nations Unies ont joué un rôle essentiel pour que des enquêtes soient menées sur ces exactions associées à ces programmes de la CIA. Il y a eu des révélations dans les rapports. Des investigations sur la complicité des États ou des procédures judiciaires ont été engagées et sont en cours dans des pays comme, attendez, écoutez un petit peu, Allemagne, Italie, Lituanie, Macédoine, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni et Suède. Alors, dans la plupart des pays européens, on constate une avancée de la responsabilisation de ces États. Mais il y a aussi, attention, cette chape qu'on a aussi connue en Tunisie, c'est le secret d'État qui ne doit pas être levé afin de protéger la sécurité nationale. Donc, on va essayer de vous faire un petit état des lieux de ces pays européens. Chacun va vous faire un petit récit et c'est...
Non, c'est moi. C'est moi, je commence avec l'Allemagne. L'Allemagne s'est rendue complice de la détention secrète de Mohamed Zamar, interrogé par des agents allemands alors qu'il était détenu en secret en Syrie en novembre 2002. Les responsables allemands ont reconnu le recours à la torture dans les prisons syriennes. Mohamed Zamar n'a toujours pas obtenu justice malgré la tenue d'une enquête parlementaire allemande sur les allégations de violation des droits humains que lui-même et d'autres ont formulées.
Eh bien, en Italie, l'Italie a déclaré coupable des agents américains et italiens pour leur participation à l'enlèvement d'Abu Omar en février 2003 à Milan. Abu Omar a ensuite été transféré illégalement vers l'Égypte, détenu au secret et vraisemblablement soumis à la torture. Toutefois, les affaires impliquant de hauts responsables américains et italiens ont été classées sans suite en raison du secret d'État et de l'immunité diplomatique. Le parquet a fait appel de ses décisions, tandis que l'Italie continue d'invoquer la nécessaire protection des secrets d'État pour faire obstruction à la justice.
Alors en Lituanie, la Lituanie a reconnu l'existence de deux prisons secrètes. Une délégation du Conseil européen pour la prévention de la torture s'est rendue dans ces prisons en juin 2010. Première visite par un organisme indépendant dans une prison secrète de la CIA en Europe. Une information judiciaire est ouverte.
Macédoine. La Macédoine aurait participé à la détention illégale puis à la restitution orchestrée par la CIA vers l'Afghanistan du ressortissant allemand Khaled El-Masri qui a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la première fois que cette Cour devra examiner une affaire mettant en jeu la complicité présumée de l'un des États membres du Conseil de l'Europe dans les programmes de la CIA. La Macédoine continue de nier toute action illégale de la part de ses agents.
En Pologne, la police des frontières a révélé en juillet dernier que 7 appareils affrétés par la CIA, dont la plupart transportaient des passagers, ont atterri à l'aéroport de Szymami, près du site présumé d'une prison secrète. En septembre, le bureau du procureur a confirmé qu'il enquêtait sur les allégations d'Ab al-Rahin al-Nalchiri, qui affirme avoir été détenu au secret en Pologne. Il s'est vu accorder le statut de victime en octobre.
La Roumanie aurait hébergé une prison secrète de la CIA. Elle décline fermement toute responsabilité, malgré les nouveaux éléments prouvant sa participation au programme de restitution.
La Suède est accusée de ne pas enquêter sur les restitutions opérées par la CIA en décembre 2001 concernant Ahmed Aziga et Mohamed Al-Zahri envoyés en Égypte où ils auraient été torturés. Bien que le gouvernement leur ait accordé des indemnisations, ils n'ont pas bénéficié de pleine et entière réparation.
Le Royaume-Uni a annoncé en juillet qu'il allait engager une enquête sur l'implication des responsables britanniques dans les mauvais traitements qui auraient été infligés à des personnes détenues à l'étranger aux mains des services de renseignement étrangers. Le gouvernement a également admis que les États-Unis avaient utilisé le territoire britannique pour des vols de restitution. Donc voilà, voilà quand même des informations soucieuses qui nous montrent un peu comment la peur, comment les gouvernants, nos gouvernants peuvent aller à des violations des droits de l'homme très importantes. Bon, les pays d'Europe n'étaient pas directement dans les attentats, mais ils ont accepté d'être complices de la CIA et du gouvernement Bush.
Oui, c'est ce qui fait dire inévitablement à Amnesty que de toute façon, il n'est jamais tolérable, le moindre dérapage en termes de droits humains n'est jamais tolérable dans la lutte contre le terrorisme et qu'on ne peut jamais justifier de dérapage sous ce prétexte-là. Ça renvoie aussi au film, si vous avez l'occasion de le voir, il était sorti au cinéma il y a quelques années, il existe en DVD maintenant, ça on renvoie au film Détention secrète qui traite de cette actualité-là, effectivement des prisons secrètes de la CIA et qui est un film américain, un grand spectacle mais qui est assez bien fait au niveau de la démonstration.
Voilà, et il va se dire qu'Amnesty va continuer les dossiers, qu'on vous reparlera dans l'année, on espère, pour que ces personnes puissent être au moins considérées comme victimes et avoir leur vie qui continue avec un peu plus d'optimisme.
Maintenant, Ronan va vous donner de bonnes nouvelles quand même.
Ah, je n'ai pas fait les bonnes nouvelles tout de suite, j'allais donner une petite information pour les jeunes ou les moins jeunes déjà.
C'est une bonne nouvelle, si, pourquoi
c'est une... Oui, pour les tout jeunes, à fait, c'est une nouvelle positive. Jeunes, mais pour tout le monde, alors
sujet, comme on a traité de sujets un peu graves, on va traiter maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire pour Amnesty, entre autres. Alors, commençons.
Donc, signer. Non, signer. C'est pas ça.
Non, mais là, on signe pas.
Non, on signe pas, c'est une histoire de téléphone.
Oula.
Alors, débarrassez-vous de votre ancien téléphone portable. Vous participerez au financement des actions d'Amnesty International. Alors, que faire? Quoi faire? En vous connectant sur Mon Ex Telcom.
Alors, Mon Ex
Telcom.
Ah, que des petits morceaux de mots.
Ouais. Donc, mon ancien téléphone, Mon Ex Tel.com, vous échangez votre ancien téléphone contre un don Amnesty International. Le processus de reprise est simple, rapide et gratuit pour vous. Une fois le téléphone réceptionné, Mon Ex Tel reverse le montant défini selon une cotation liée au modèle et à l'état du téléphone à l'association choisie et vous envoie un email de confirmation du don. En plus de contribuer à favoriser le recyclage et le réemploi, Monextel confie une part importante de son activité de traitement à un établissement permettant à des personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté. C'est simple et gratuit pour vous, c'est utile pour Amnesty International.
Bon. Donc, tu nous répètes l'adresse internet pour commander le petit pack pour envoyer son téléphone ?
Alors, c'est Monextel, donc c'est monextel.com.
D'accord, et bien on va essayer, on en parlera le mois prochain.
Bah oui, ah,
tout à fait, parce que j'avoue que c'est une information que j'ai découvert, donc je n'ai même pas testé, mais pourquoi pas.
Je suis sûr qu'il y a plein de téléphones qui traînent dans les tiroirs.
Moi, j'en ai avoir 4 ou 5 téléphones qui doivent rester à la maison, mais bon, pourquoi pas.
Bon, bah on teste, et puis vous nous en parlez aussi.
Bon, je pense qu'on va faire une petite pause, là.
Oh. Une petite nouvelle,
c'est Françoise,
une bonne nouvelle.
C'est Françoise qui est responsable du fil conducteur, non, bon, il va nous dire la suite.
Moi, j'avais dit que Ronan donnerait des bonnes nouvelles.
Ah,
quand
on
même.
La bonne nouvelle, Ronan.
Ah non, je vais dire une bonne nouvelle, si vous voulez, même non, mais j'avais l'œil dessus l'horloge, l'horloge magique devant moi.
L'horloge en début d'année, on après, négocie on avec les minutes.
Non, mais je vais pas me faire taper sur les doigts, il y a Didier qui a
c'est
la...
C'est pas grave, on nous a dit qu'on pouvait déborder.
On déborde.
C'est vrai qu'on a appris qu'il n'y avait pas d'émission après. Mais bon, revenons à nos moutons.
Vous allez ne plus nous laisser.
Donc, une bonne nouvelle concernant le Togo. Le 3 mars 2010, plus d'une douzaine de militants politiques ont été arrêtés au Togo au moment de l'élection présidentielle togolaise.
Comme bonne nouvelle.
Oui, mais attends la suite. Bon. Il faut bien une petite introduction.
J'ai dit pour commencer que les droits humains n'étaient pas universels.
Là, ça commence à partir un peu. Bon, c'est pas grave.
À toi.
Donc, parmi ces militants, 4 ont été libérés le 1er septembre 2010. Donc déjà, c'est bien. L'un d'entre eux, Augustin Gopon, excusez-moi pas encore, j'ai toujours des noms tordus dans cette émission.
Prononce à ta façon.
Ouais.
J'ai déjà dit que dans Amnesty International, il y avait le mot international.
Oui, mais excuse-moi déjà les mots français, j'ai du mal.
Donc, vas-y Ronan, vas-y.
Excuse-nous,
on n'arrête pas de te déranger.
L'un d'entre eux, Augustin Gopon, a déclaré Amnesty International. Pendant notre détention, nos amis nous informaient de toutes les actions menées par votre organisation en notre faveur. Nous souhaitons vous remercier de tout cœur. Dès que les autorités entendent Amnesty, ils ont la trouille. Et nous, depuis la prison, le simple fait de savoir qu'Amnesty International était mobilisé sur notre cas nous a beaucoup réconfortés. Amnesty International s'informait en permanence sur notre situation, interpellait les autorités et menait des actions pour exiger notre libération. Merci encore Amnesty. Donc c'est quand même, c'est quand même une bonne nouvelle.
Franchement, c'est encourageant.
Mais ça prouve que ce qu'on fait, c'est au moins quelque chose. Donc un témoignage quand même intéressant.
Voilà, et puis dire à tout le monde que écrire, c'est pas grand chose, mais que ça peut avoir un pouvoir.
Ça me rappelle un slogan, mais c'est autre chose.
Voilà.
Bon, je pense qu'on peut peut-être passer à la pause maintenant.
Allez, une pause.
Une pause musicale. Alors, on y va.
Allez, Didier. C'est Didier qui est aux manettes.
Par le bras de Bethlehem, par le bras de Bethlehem.
la sortie d'un film. Ce film est sorti le 12 janvier. C'est Women Are Heroes.
Quelle prononciation!
Ah oui!
Tu t'es amélioré depuis hier, je trouve. Hein.
Ce film est soutenu par Amnesty. Alors, il a été fait par l'artiste JR. JR est quelqu'un qui est un photographe qui a pris des photos des femmes de différents pays et donc qui témoigne finalement de l'emprise de certains acteurs économiques par rapport aux droits humains. Et donc Amnesty demande à mettre sur pied des cadres réglementaires qui autorisent l'État, accueillant le siège social d'une entreprise, à exiger qu'elle prenne des mesures visant à prévenir les atteintes aux droits humains qui résultent directement de ses activités à l'étranger et à y remédier. Amnesty travaille sur la révision du principe directeur de l'OCDE et les approches communes concernant l'environnement et les crédits à l'exportation. Des critères de performance aussi de la Société financière internationale. Et donc ce film est un beau témoignage de ce qu'il peut être fait par rapport à ces femmes-là qui sont des héros. Voilà, donc nous allons demander à ce que ce film soit programmé à Évreux.
Nous espérons, et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont vu justement les photos de JR. Ce sont des grandes photos gigantesques de femmes qu'il colle dans les bidonvilles, dans les endroits où les gens vivent. Et c'est vraiment impressionnant. Et je pense que sur le site d'Amnesty, on peut regarder des petits Dailymotion avec des extraits.
Des extraits.
Qui donne une idée. Donc son film doit être tout à fait intéressant.
Bon, Bérona, on va vous redonner d'autres bonnes nouvelles.
Ouais, pas de problème. Tant qu'il y en a, on va les lire.
Donc, il y en aura toujours, c'est inépuisable.
Heureusement, voilà.
Heureusement, c'est heureusement.
Oui. Signe de...
Que ça fonctionne.
Tout à fait.
En Bangladesh, Montugos, avocat de 6 ouvrières syndicalistes qui avaient été arrêtées fin juillet à la suite de manifestations en Dhaka, la capitale du Bangladesh, a été libérée le 11 octobre 2010. Les 6 ouvrières de l'industrie textile également arrêtées avaient été libérées le 13 septembre. À Cuba... 5 membres d'une organisation cubaine en faveur de la démocratie qui avaient été incarcérés à cause de leurs convictions et activités politiques ont été libérés après plusieurs semaines de détention. Chine. L'écrivain tibétain Tagyal, qui avait été arrêté le 23 avril 2010 à la suite de la publication de son livre « La frontière entre ciel et terre », ouvrage interdit en Chine, a été libéré le 14 octobre 2010. Excusez-moi. En juillet 2010, les autorités libyennes ont annoncé la libération de plusieurs centaines d'Érythréens incarcérés dans des centres de détention où certains d'entre eux ont été maltraités. Tous risquaient d'être envoyés de force dans leur pays, mais ils ont finalement obtenu un permis de séjour de 3 mois en Libye. Cette annonce semble avoir été le résultat de pressions internationales, en particulier de la part d'Amnesty International, qui continue bien sûr à suivre l'évolution de la situation et qui réinterviendra si nécessaire.
Bon, mais maintenant, Edith va vous parler de la Chine.
Alors oui, alors je vais vous donner une grande nouvelle, c'est qu'Amnesty est d'accord avec le président de la Chine.
C'est pas vrai.
Si, 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 mais alors on va peut-être un peu analyser quand même.
Analysons.
Voilà, donc le président Hu Jintao a déclaré, lors d'un voyage aux États-Unis et à la Maison-Blanche, je pense dans le cadre de conférences de presse, il a déclaré la Chine, alors je vais vous lire hein, quand même, parce qu'il ne faut pas que je me trompe, hein, c'est sérieux. La Chine reconnaît et respecte l'universalité des droits humains. En même temps, nous sommes convaincus que nous avons aussi besoin de tenir compte des différentes circonstances nationales quand on parle de la valeur universelle des droits humains. La Chine est un pays en développement avec une population très importante et aussi un pays en développement qui traverse une phase de réforme cruciale. Dans ce contexte, la Chine fait face à de nombreux défis en termes de développement économique et social. Et alors là, c'est là qu'Amnesty met un peu son accord. Il a dit « Et beaucoup de choses restent à faire en Chine au niveau des droits humains. » Alors là, on est complètement d'accord avec lui.
Mais c'était après un repas arrosé qu'il a dit ça ou
Non. Alors bon, je vais prendre un peu l'avis du directeur du programme Asie-Pacifique d'Amnesty International, dont Sam Zarifi, qui analyse un peu ces phrases en disant que les propos tenus par Hu Jintao ne diffèrent pas souvent de sa position quand elle rend des comptes aux Nations Unies. Mais on voit quand même une reconnaissance un petit peu du travail qui reste à accomplir au gouvernement chinois dans le domaine des droits humains. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on a quand même un peu d'optimisme. On sent qu'il y a quand même un petit peu de pression des citoyens chinois, donc on va dire des individuels. Chine, c'est quand même tout à fait spécial qu'on parle de la personne et non pas de la masse. Donc les citoyens chinois commencent un petit peu à demander une amélioration de la situation des droits humains. Malheureusement, le gouvernement réagit souvent en renforçant des restrictions à ces personnes qui veulent un petit peu bouger. Surtout au niveau des trois dernières années, on pense les Jeux Olympiques, un peu tout ce qui a été très, 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 très fermé au niveau chinois. Alors, les Chinois essayent de nous faire croire que les droits économiques et sociaux, OK, on peut un peu, mais les droits politiques et les droits personnels, là, c'est quand même autre chose, c'est pas pour la Chine, voilà. On rejoint un peu ce que disait Didier sur l'universalité des droits humains.
Je dirais que c'est la même rhétorique qu'on nous a resservie à d'autres époques et dans d'autres pays, effectivement, et qui tombe à l'eau dès que, effectivement, les populations réclament leur dû, c'est-à-dire le respect de leurs droits.
Alors donc, si on prend la grille de lecture chinoise, donc les droits économiques et sociaux, pourquoi pas? Mais on se rend compte aussi que là, dès que quelqu'un, en tant qu'individu chinois, commence un petit peu à bouger et à essayer de faire réagir le gouvernement en disant « mais on veut nos droits », là, il y a répression. Alors, je vous rappelle de quelques exemples. Le scandale du lait maternisé plein de mélanine, il y a eu une personne qui s'appelle Zhao Lianzhang qui a essayé d'amener le groupe agroalimentaire qui était coupable au niveau des tribunaux. Et là, maintenant, on ne l'a pas aidé, il s'est retrouvé en prison. Il y a Tan Si qui a mené une campagne pour que des indemnités soient versées aux personnes qui ont été contaminées par le sida dans les milieux hospitaliers, où à un moment en Chine, il n'y a eu aucune hygiène, vraiment des choses assez, assez terribles. Et là aussi, lui, on essaye de le faire taire. Les journalistes, il y en a beaucoup qui travaillent en Chine, mais dès qu'ils dénoncent la corruption ou même qu'ils... relaye des militants associatifs, alors là, effectivement, on les trouve, on les fait taire, on interdit les... Il y a une censure pas possible. Ou quand ils essayent de parler des expulsions, parce que les plans d'urbanisme en Chine, c'est quand même, on va dire, à la louche. Hein. Les gens, ils sont déménagés, on ne leur pose pas leur avis, on ne leur demande pas où ils veulent aller.
Il y a une facilité en Chine par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que si la Chine est un pays ultra-libéral sur le plan de l'économie, enfin des industries, ça reste un régime communiste au niveau de la possession de la terre. C'est-à-dire que c'est très pratique pour l'État, puisque l'État, effectivement, est propriétaire de l'ensemble des terres en Chine, et que donc, quand il veut expulser des gens, il ne leur demande même pas leur avis, puisque de toute façon, ils ne sont pas chez eux. Donc, c'est très, très pratique à utiliser.
Voilà. Donc, et puis, alors, le dernier exemple, on va dire, dont le monde entier en a entendu parler, c'est quand même le prix Nobel de la paix.
Hein? Oui,
maintenant, Liu Xiaobo est incarcéré. Il a simplement, pacifiquement exprimé ses opinions. Sa femme, alors elle, c'est sa femme, voilà, tout simplement, mais elle est assignée à résidence de façon arbitraire. Bon, c'est vrai qu'elle a l'air aussi, elle, d'avoir... Une demande, une foi chevillée sur la liberté de parole importante. Donc, ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'il y a encore énormément de choses à faire pour que la Chine progresse. Mais la Chine va peut-être avoir une autre difficulté. C'est que là, la Chine est un pays très riche. La Chine se développe énormément. La Chine est première dans tout ce qui est censure Internet. Mais justement, en censurant tellement Internet, elle commence aussi à bloquer certains de ces entreprises qui ont besoin aussi d'avoir Internet. C'est-à-dire qu'elle est en train un petit peu de se couper sa possibilité de progresser elle-même.
Elle s'auto-censure.
Voilà, et de faire que son développement, pour l'instant, avoir beaucoup de sous, être premier leader, mais de ne pas avoir un marché de gens derrière qui sont ouverts au monde entier, ça va peut-être les gêner. Donc, on va surveiller ça, mais ça va peut-être donner des nouvelles donnes et peut-être qu'effectivement, le gouvernement, Hu Jintao, va peut-être un peu plus faire attention aux droits humains.
Et pour confirmer ce que tu viens de dire, il faut rappeler encore une fois, comme c'est vrai dans ce que j'ai dit par rapport à la Tunisie, qu'Internet reste un moyen d'information fondamental. Malgré les censures, etc., ça reste un moyen de communiquer avec les opposants chinois qu'eux-mêmes reconnaissent comme étant essentiels, et que donc il faut continuer effectivement à écrire, à protester, à signer les pétitions, parce que de toute façon, il y a toujours des choses qui passent, et les choses qui passent sont plus importantes que celles qui ne passent pas.
Eh bien, rappelez-vous, Une des fois précédentes, Didier, vous avez parlé d'un petit livre. Ce petit livre, c'était « Indignez-vous », écrit par M. Stéphane Hessel. Et Stéphane Hessel sera à Évreux. Il sera à Évreux le 18 février, à l'abordage, au cours de la grande soirée citoyenne et engagée. Donc, il sera là, il interviendra à 18h30. Alors, moi, je vous conseille de prendre vos places et de vous dépêcher. Allez à l'abordage, au forum, ou consultez Digitik.
Oui, sur Internet. Ouais.
Et vous aurez une place pour cette soirée, qui est une soirée qui s'annonce formidable.
Je pense que tous nos auditeurs hébroïciens connaissent bien l'abordage, quand même. Il n'y a pas de souci.
Il y a Stéphane Hessel, c'est vrai que... Voilà, mais il y a aussi un groupe...
HK oui, et Saltimbanque.
Voilà, voilà.
Il y a de la musique, etc. Faites-y penser.
Donc oui, n'hésitez pas à participer à cette soirée. Voilà. Et puis, donc, nous vous rappelons que le 28 mai 2011, nous fêterons les 50 ans d'Amnesty.
Tout Évreux dehors et pour nous rejoindre. On ne sait pas trop encore où, mais ça va être...
Bon, quelques bonnes nouvelles encore, non? Parce que c'est pas fini. Hein.
Non, ah ben, c'est pas fini.
Bah non, François, je te vois. Je te vois en train de faire ta conclusion.
Ah, mais Françoise, elle a l'agenda, elle le tient.
Non, non, on a commencé en retard, on finit en retard.
Non, mais Renan a raison, parce qu'il faut toujours...
Vas-y, Renan.
Il faut toujours, comment dire, répéter les choses positives et que, bon, ce qu'on a l'occasion de redire dans beaucoup d'émissions, mais qu'il faut toujours aussi répéter, ça me paraît fondamental, c'est que dans tout ce qu'on fait, effectivement, on obtient beaucoup de choses, beaucoup moins que ce qu'on espérait, mais beaucoup de choses, et que c'est autant de choses qui n'arriveraient pas si on n'existait pas. Donc, Renan, t'as raison. Continuons Amnesty et continuons ce qu'on fait.
Alors, quel pays, Renan?
Bah, tout à l'heure, j'étais sur les libérations. Maintenant, on va parler un petit peu peine de mort. Et bon, peine de mort, bon, États-Unis.
Ah, j'ai une bonne nouvelle, tiens. C'est moi qui l'aurai tout à l'heure. Vas-y.
Non, tu l'as dit après.
C'est un scoop, parce qu'Edith ne nous l'a pas dit avant l'émission.
Non, on ne sait même pas ce qu'elle a dit. Elle nous fait des cachotteries, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Donc, le 14 juillet 2010, le gouvernement du Tennessee a commué la condamnation à mort de Gail Owens, cette femme qui avait été condamnée à la peine capitale en 1986, qui devait être exécutée le 28 septembre 2010. Aux États-Unis toujours, Jeffrey Matthews a bénéficié d'un sursis quelques heures avant le moment où il devait être exécuté, le 17 août 2010. C'est la troisième fois en trois mois que son exécution est suspendue. Ce sursis va permettre à ses avocats de faire examiner certaines... Ce soir, j'ai
oui,
du mal.
Ça va.
Pourtant, je pense que ça doit être la radio, ça doit être l'air.
C'est ça, il y a des poussières là.
Donc, ce sursis va permettre à ses avocats de faire examiner certains nouveaux éléments liés au crime pour lequel Jeffrey Matthews... Les condamnés, Amnesty continue à suivre ce cas. États-Unis, dans l'Ohio, la peine de mort prononcée à l'encontre de Kevin Ketz a été commuée le 2 septembre par le gouverneur de l'Ohio. Il devait être exécuté le 15 septembre 2010. Ses avocats estiment que leur travail est inachevé car ils restent persuadés de l'innocence de leur client. Ils ont exprimé leurs remerciements aux milliers de personnes qui ont appelé à la clémence. Ils ont indiqué que plus de 25 000 personnes avaient signé des pétitions et que plus de 7000 personnes avaient envoyé des lettres au gouverneur de l'Ohio l'exhortant à accorder sa grâce. Donc, tu avais quelque chose à dire?
Eh bien, justement, peine de mort, c'est Françoise qui nous l'a appris hier au Japon, parce que c'est aussi un pays où la peine de mort est quand même aussi très utilisée et dans des conditions terribles. Et elle nous a appris que le nouveau ministre de la Justice, Françoise, je crois...
Oui, c'est ça.
Eh bien, c'était un abolitionniste.
Oui.
Donc, et qui pense que l'État ne doit pas tuer ses concitoyens. Donc, on espère qu'on va pouvoir avoir une amélioration.
Oui, parce que nous avons un prisonnier, là, dans le cadre du marathon des signatures, un vieux monsieur de 84 ans et qui était appelé à subir la peine de mort. Donc, on lui a écrit pour son anniversaire, le 14 janvier, pour le soutenir. Et on espère que le fait que ce ministre soit arrivé au pouvoir va permettre
il y a une réflexion au niveau du gouvernement.
De le sauver.
Et en parlant de notre pays aussi, au niveau du Guatemala, Amnesty International salue la décision du président guatémaltèque de s'opposer à un texte de loi sur la peine de mort.
Eh ben voilà. Ah, c'est positif.
On fait une petite pause musicale et on dira au revoir après avec les quelques rappels et quelques infos locales.
Tout à fait.
À tout de suite.
If I don't get well no more, I have had my fun. If I don't get well no more, my
is failing me, and I'm going down slow. Please write my mother, tell her the shape I'm in. Please write my mother, tell her the shape I'm in. Tell her to pray for me, forgive me for my sin. Tell her don't send no doctor, doctor can't do no good. Tell her don't send no doctor, doctor can't do no good. It's all my fault, didn't do the things I should.
Eh bien, nous approchons du terme de notre émission
mensuelle.
Et donc, on va en profiter pour faire quelques petits rappels qu'on vous fait à chaque fois, mais il faut toujours remettre le marteau sur l'enclume, c'est comme ça qu'on dit. Non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas grave.
Non, mais cause.
Et donc, pour vous redonner nos coordonnées, puisque de toute façon, encore une fois, Amnesty n'existe que par ses militants.
Mais on aime bien que les militants viennent nous causer.
Et qu'on aime bien que les militants viennent nous causer, effectivement, viennent prendre contact avec nous, viennent nous demander des renseignements, nous faire part de leurs impressions, etc. Donc on vous rappelle nos coordonnées, le mail du groupe d'Evreux, amnesty.evreux@gmail.com, amnesty.evreux@gmail.com, le numéro de téléphone que Françoise doit connaître de tête. Mais...
02 32 39 41 27.
Et on répond.
Et c'est Françoise qui vous répondra normalement.
Oui, oui.
Tu peux redire le oui, là, c'était.
Redis-le, Françoise, c'était très bien dit. En plus, on se croit à la radio nationale.
02 32 39
des anciennes speakerines, 39, tu sais,
41 27.
Il n'y a pas l'image, mais ça vaut le coup.
Donc voilà, ça, c'est nos coordonnées sur le plan local. Également, le site. Alors, le site qui est en tout début de construction, on peut dire, sur Amnesty Evreux, qui est grâce à Euraso. Mais je vous rappelle...
Sur Euraso.
Donc là, j'ai dit le contraire.
Ouais, un petit peu, j'ai l'impression.
Bon, c'est la fatigue.
Alors, voilà,
notre site sur Euraso, qui est le site étant tout à fait au début, mais on va l'étoffer. Donc, notre site, vous allez sur la page
Euraso.fr,
vous tapez Amnesty sur la page d'accueil et vous tombez directement sur nos pages.
Et Euraso, c'est les associations de l'heure. Donc, il y a peut-être d'autres associations qui peuvent vous intéresser. On partage, nous.
Tout à fait. Vous aurez d'autres coordonnées à contacter éventuellement. Aussi, le site de la section française, donc amnesty.fr, et le site du secrétariat international à Londres. Vous avez une version française qui fourmille de documentation. Je vous reconseille, pour terminer, comme on avait commencé, la lecture, si vous êtes patient, des 56 pages consacrées à Amnesty pour les atteintes aux droits de l'homme en Tunisie depuis 20 ans. C'est un peu rébarbatif, mais c'est intéressant. J'ai pas tout lu. Et donc, c'est amnesty.org. Amnesty.org, vous demandez la version française et vous avez accès à toute la documentation.
Et d'abord, la prochaine émission qui sera le 22 février, on posera des questions.
Oui, exactement.
Comme ça, on verra bien si les gens ils l'ont lu.
Déjà, une question. On a parlé d'une date importante pour Amnesty cette année. Il faudra donner la réponse au mois prochain.
Quelle date? Il n'y a rien à gagner, mais bon,
Vous avez gagné le droit de militer.
Tout à fait.
Qui est important.
Alors, on va dire au revoir.
On va dire au revoir, effectivement, à tous les auditeurs. Et rendez-vous donc le mardi 22 février à 20h sur l'antenne de Principe Actif, comme tous les mois.
Génial, on ne sait pas qui, mais on y sera.
nous.
je pense qu'on y sera, nous.
Je vous rappelle aussi que nos émissions sont podcastables, sauf la dernière, on a pris un peu de retard, mais je pense qu'elle va être en ligne très vite maintenant.
Celle-là, donc, elle vaut le coup.
Celle-là, il faut l'écouter, je crois.
Oui, parce qu'elle est, c'est techniquement
un
exemple du genre. Nos émissions sont podcastables et écoutables sur le site de Principe Actif, principeactif.net. Donc n'hésitez pas, si vous avez des amis qui n'ont pas pu nous écouter en direct, à donner le message ou à nous réécouter, n'hésitez pas à le faire.
Vous avez le droit de nous critiquer. Principeactif.net,
rubrique podcast, on va arriver à le dire. À très bientôt, bonne soirée.
Allez, bonsoir.